Bonjour à tous. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être devant vous ce matin. C'est vrai, ça fait déjà un peu longtemps. Je découvre cette salle pour la première fois. La dernière fois que j'étais là, c'était de l'autre côté où on avait fait le culte ensemble. Je me réjouis en tout cas d'être ici et d'être celui qui va apporter la parole de Dieu ce matin. Je tiens à remercier le Seigneur qui permet que je sois ici et aussi dire merci à mon bien-aimé Philippe Gao, qui a bien voulu m'étendre la main en me demandant de venir partager la parole de Dieu avec vous. Bien qu'il ne soit pas là, il a eu confiance en moi, il m'a offert sa chair afin que je puisse m'adresser à son peuple, le peuple de Dieu que vous formez ce matin. Et en venant, quand il m'a demandé de partager la parole de Dieu avec vous, je réfléchissais et j'ai dit, et si j'entretenais mes frères et sœurs dans la foi autour d'un sujet important qu'est la prière? Ce matin, nous parlerons de prière. J'introduis ce message en nous posant simplement une question, peut-être question que nous n'avons pas souvent l'habitude de nous poser. Qui sommes-nous devenus dans notre marche avec le Seigneur? Je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes devenu chrétien. Alors, moi, ça va bientôt avoisiner les 36 ans que je suis devenu chrétien. 36, peut-être qu'il y en a qui ont 36 ans ou moins, je ne sais pas. Mais ça fait 36 ans que je suis chrétien. Qui est-ce que je suis devenu dans ma marche avec le Seigneur? J'ai voulu que nous gardions, je vous inviterai à garder à l'esprit un homme qu'on appelle l'apôtre Paul. C'est de lui qu'il va être question ce matin. En regardant l'apôtre Paul, nous voyons ce que cet homme est devenu dans sa marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'exemple de l'apôtre Paul nous montre qu'on ne peut pas avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ et rester la même personne. Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, cette rencontre avec lui, une véritable rencontre avec Jésus-Christ, provoque de profonds changements dans notre vie. La rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ peut provoquer ce qu'on appelle la conviction. Et on le voit, l'apôtre Paul était vraiment un homme de conviction. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il est devenu un homme convaincu, une conviction que rien ne pouvait véritablement ébranler. Écoutez ce que Paul va dire et comment il traduit cette conviction qu'il avait dans le Seigneur Jésus-Christ. Paul dira, oui, j'ai l'absolue certitude. Je ne sais pas si on peut dire comme l'apôtre Paul, j'ai l'absolue certitude que rien ne peut nous séparer de Jésus-Christ, ni la mort, ni la vie, ni l'avenir, ni le présent, ni les puissances, ni ce qui est en haut ou en bas, ni aucune créature. Non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, en fait, cette rencontre provoque en nous une véritable conviction. Ce matin, nous l'avons chanté, n'est-ce pas? J'ai confiance. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta grâce, j'ai confiance en la croix, j'ai confiance en ta puissance, j'ai confiance en toi. Paul n'était pas qu'un homme convaincu, mais il était aussi un disciple de Jésus-Christ. Frères et sœurs, lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, en fait, nous devenons des disciples. Et c'est quoi un disciple? Jésus lui-même va répondre à cette question, n'est-ce pas? Dans Marc chapitre 8, verset 34 et suivant, Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Trois choses à faire. Et on voit ces trois choses dans la vie de l'apôtre Paul. Lorsqu'il est devenu disciple de Jésus-Christ, pour devenir disciple de Jésus-Christ, Paul a dû renoncer à l'immense fierté qui s'attachait à sa naissance, l'immense fierté qui s'attachait à ses origines, à son éducation, la fierté qui s'attachait à sa réputation et même à ses racines. Vous savez, il était un juif et il pouvait bien se glorifier de tout cela. Mais dans Philippiens chapitre 3, verset 7, on voit comment l'apôtre Paul parle de son passé. Il dira, toutes ces choses constituent à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. toutes ces choses. Pour l'apôtre Paul, lorsqu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, il les trouve comme une ordure, comme des choses sans valeur. Oui, lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, on devient un disciple. Un disciple qui renonce à lui-même lorsque ses intérêts à lui entrent en conflit avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Paul, pour devenir disciple de Jésus-Christ, s'est aussi chargé de sa croix. Et on voit le témoignage que lui-même, il rend de lui dans 2 Corinthiens chapitre 11. Paul dit plus souvent, j'ai vu la mort de près. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la mort de près depuis que vous êtes devenu chrétien. En tout cas, ce n'est pas le cas pour moi. Je n'ai pas encore vu la mort de près. Mais pensez à ces 380 millions de nos frères qui, à travers le monde, sont persécutés et qui voient quotidiennement la mort de près à cause de Jésus-Christ. Lorsqu'on devient disciple, on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, nous devenons des disciples. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul a enfin répondu à l'appel du Seigneur, « Viens, viens et suis-moi. » Bien-aimés frères et sœurs, qui sommes-nous devenus dans notre marche avec le Seigneur? Sommes-nous devenus des hommes et des femmes de conviction? Sommes-nous devenus des disciples, prêts à renoncer à eux-mêmes, à se charger de leur croix et à suivre simplement, à répondre à l'appel du Seigneur? Oui, une véritable rencontre avec le Seigneur fait de nous des disciples. Mais une véritable rencontre avec le Seigneur fait aussi de nous des hommes et des femmes et des femmes de prière. Et c'était le cas de l'apôtre Paul lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et nous le voyons dans ce texte que nous avons lu ce matin. Frères, bien souvent, lorsqu'on nous présente l'apôtre Paul, on nous le présente comme un grand missionnaire. Lorsqu'on nous présente l'apôtre Paul, on nous le présente comme un théologien, comme un écrivain. Et d'ailleurs, grâce à cet homme, le Seigneur va utiliser cet homme pour que le Nouveau Testament soit écrit, n'est-ce pas? 13 des 27 épîtres. Lettres ou livres qu'on trouve dans le Nouveau Testament ont été écrits par cet homme-là. Paul est souvent présenté comme un homme, un écrivain du Nouveau Testament. Cependant, il y a une facette de la vie de l'apôtre Paul qui reste bien anonyme, bien cachée. Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, mais en fait, il est devenu un homme de prière. L'apôtre Paul est devenu un homme de prière. Ces 13 épîtres contiennent au moins 42 mentions. 42 mentions de prière explicites. J'ai essayé de regarder et on voit véritablement que cet homme était un homme de prière. Le texte qui nous a été lu ce matin, c'est celui-là. Paul prie dès sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il prie dès sa rencontre, alors que Paul était encore à terre, parce que lorsque le Seigneur s'est saisi de lui, il l'a projeté à terre, alors qu'il était encore à terre. Paul prie. Il commence automatiquement à prier. Formule deux prières. La première, c'est « Qui es-tu, Seigneur ? » Qui es-tu ? La deuxième prière que l'apôtre Paul formule alors qu'il était à terre, ben, « Que veux-tu que je fasse, ô Seigneur ?» En fait, ces deux prières de l'apôtre Paul nous montrent déjà des leçons importantes liées à la prière. Deux leçons importantes. La première, c'est qu'il n'y a pas de vie de prière fructueuse sans une véritable rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie de prière fructueuse sans une véritable connaissance de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie de prière fructueuse sans une véritable intimité, sans savoir qui est le Seigneur. Et c'est ce que Paul nous démontre ici au travers de ce texte-là. Il veut connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qui es-tu? Révèle-toi à moi. Je ne sais pas si nos prières sont souvent marquées par cela. Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi à moi. Je veux mieux te connaître. Je veux connaître qui tu es. Paul, à terre, il demande « Qui es-tu, Seigneur ? » Révèle-toi à moi. Dans la deuxième prière de l'apôtre Paul, on voit qu'il n'y a pas non plus de vie de prière fructueuse sans une véritable soumission à la volonté de Dieu. Que veux-tu que je fasse ? Il n'y a pas de véritable vie de prière sans une réelle soumission à la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes devant le Seigneur, en prière, Est-ce que nous imposons nos volontés, nos désirs, ce que nous voulons, ou est-ce que nous nous attendons à la volonté de Dieu? Sommes-nous prêts à accepter la volonté de Dieu et à nous soumettre à cette volonté de Dieu? La rencontre de Paul avec le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, bien-aimés frères et sœurs, nous apprend que la prière est la base de toute croissance spirituelle, mais la prière est aussi la base de toute consécration, toute véritable consécration à l'œuvre de Dieu. Après cet événement, quand le Seigneur le projette à terre, après cet événement, l'événement qui a eu lieu sur le chemin de Damas, ben le Seigneur envoie Ananias vers Paul, qui était quelque part dans une chambre. Et qu'est-ce que Dieu, le Seigneur, dit à Ananias? Ben va, tu vas le trouver en train de faire quoi? En train de prier. Il prie. Paul prie. C'était une prière qui était accompagnée de jeûne, n'est-ce pas? 3 jours sans manger et ni boire. Alors, ce n'est pas souvent des jeûnes de Daniel qu'on fait. Hein. Bon, là, c'est un jeûne sec. Il ne boit pas, il ne mange pas, il ne fait rien. Il n'est en train que de prier et de s'adresser à son Dieu. Comme un nouveau-né crie pour signifier sa naissance, le nouveau-né spirituel, l'apôtre Paul, prie véritablement quand il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. La prière n'est donc pas, on le voit dans ce texte, la prière n'est donc pas une affaire de vétérans dans la foi. La prière n'est pas une affaire de personnes mûres dans la foi. La prière, elle concerne tout le monde. Tout le monde est tel que nous sommes. La prière n'est pas non plus... Elle n'exige pas non plus un temps d'apprentissage. Je me souviens encore de mon beau-père lorsque, après 10 ans, j'ai passé 10 ans à lui partager la parole de Dieu. Et quand le Seigneur l'a tourné vers lui, le Seigneur l'a appelé vers lui, la première chose que mon beau-père me demande de faire, alors il est d'arrière-plan musulman, hein, il vient vers moi, il me dit, mon fils, est-ce que tu pourrais m'écrire quelques prières pour que je puisse les mémoriser et que je sois en train de prier constamment? Et je dis, papa, tu sais, on n'a pas besoin de t'écrire des prières pour que tu les récites. Parce que prier, c'est simplement parler avec Dieu. Moi, Samuel, je n'ai pas besoin de réciter d'abord des paroles avant de me présenter devant mon père quand je veux parler à mon père. Je viens et je laisse mon cœur lui parler tranquillement. Frères et sœurs, la prière, c'est parler avec Dieu. La prière est l'affaire de tout le monde parce qu'elle est le moyen par lequel le chrétien entre dans une relation vivante et intime avec son Dieu, avec son Père, avec son Créateur. C'est le moyen par lequel il entre dans cette relation, une relation basée sur l'amour, une relation basée sur la confiance, mais aussi basée sur la véritable obéissance à Dieu. Oui, avant d'être un homme d'action, Paul était d'abord et avant tout un homme de prière. Il était avant tout un homme de prière. Et tout au long de son ministère, Paul va persévérer. Il va persévérer dans la prière. La question pour nous ce matin, c'est que pouvons-nous apprendre de la vie de prière de l'apôtre Paul? Et c'est ce voyage que je vous inviterai à faire ce matin avec moi. Qu'est-ce qui caractérisait les prières de Paul? Qu'est-ce qui caractérisait la vie de prière de Paul? Et au travers de cette vie de prière de l'apôtre Paul, on pourrait véritablement nous situer nous-mêmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui caractérise nos prières? Qu'est-ce qui caractérise nos prières? Ben, la première chose qui caractérisait la vie de prière de l'apôtre Paul, c'était que ses prières étaient fondées sur la confiance en Dieu et l'assurance en son extraordinaire puissance. Oui, Paul avait foi en Dieu. Comme nous l'avons chanté ce matin, j'ai confiance en toi. Paul avait foi en Dieu, mais il avait aussi foi en la puissance de Dieu. Une puissance qui surpasse toute autre puissance. Vous savez, la foi de Paul était la conséquence de sa connaissance de Dieu. Si Paul avait foi en Dieu, c'est parce qu'il connaissait qui était Dieu. Vous l'avez vu quand il était à terre. Révèle-toi à moi. Et le Seigneur s'est révélé à lui. Paul connaissait qui était véritablement Dieu. Et dans sa prière, la prière qu'il formule à l'endroit de l'église d'Éphèse, voyez bien ce que Paul demande pour cette église-là. Paul demande à ce que cette église-là connaisse véritablement qui est Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 20, Paul dit, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne sagesse et révélation. Pourquoi ? Pour que vous le connaissiez. Parce que quand vous connaîtrez qui est le Seigneur, ben en fait, vous aurez envie de venir tout le temps devant lui. Si vous connaissez qui est Dieu, vous aurez envie de développer une certaine relation avec lui. Si vous connaissez qui est Dieu, ben vous entretiendrez une véritable relation d'intimité avec lui. Je prie que Dieu vous donne cette sagesse de pouvoir le connaître. Mais la deuxième chose que l'apôtre Paul, la deuxième requête que l'apôtre Paul formule dans ce texte-là, ben il prie que Dieu illumine ainsi leur intelligence afin qu'ils comprennent quoi ? Ben en fait, qu'ils comprennent l'extraordinaire ou l'infinie puissance que Dieu met, que Dieu met à la disposition de ses enfants, de ses enfants. La vie de prière de Paul était donc caractérisée par une confiance inébranlable en Dieu et en sa puissance infinie. Pour Paul, Dieu n'est pas simplement un acteur, Dieu n'est pas simplement un spectateur dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'humanité, non. Pour l'apôtre Paul, ben en fait, Dieu est un acteur dans notre histoire. Dieu est un acteur dans votre histoire. Pour lui, Dieu a un plan. Il a un plan pour la vie de l'homme, pour la vie de chaque être humain. Et Dieu a tous les moyens disponibles, toutes les ressources à sa disposition pour faire réussir le plan qu'il a pour chacun de nous. Paul croyait que Dieu peut faire infiniment et au-delà de tout ce que nous lui demandons et imaginons. On trouve cela dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. C'est donc à ce Dieu qui agit dans le monde. C'est donc à ce Dieu qui agit dans chaque aspect de la vie de l'homme que l'apôtre Paul s'adresse. C'est à lui qu'il s'adresse. Mais mieux, et ce qui me frappe encore plus dans cette façon de prier de Paul, c'est que Paul croyait que Dieu est son Dieu. Il n'est pas le Dieu de son frère. Il n'est pas le Dieu de son père. Il est son propre Dieu. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, nous le voyons prier. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Ce n'est pas votre Dieu à vous, mais mon Dieu à moi. On sent ici une relation intime entre l'apôtre Paul et Dieu, une relation basée sur la connaissance qu'il avait de Dieu. Cette façon de s'adresser à Dieu confère donc aux prières de l'apôtre Paul une certaine dignité. Paul est conscient de parler à son Dieu. Il est conscient de parler à ce Dieu tout-puissant et éternel. Et de ce Dieu-là, il attend tous ses biens, tant matériels que spirituels. Et je pense que cette façon de prier de l'apôtre Paul nous enseigne quelque chose. La première chose que cela nous enseigne, c'est en fait une invitation pour nous à nous appuyer sur Dieu dans des moments d'incertitude, nous appuyer sur le Seigneur. Oui, face aux problèmes de santé, face aux relations qui sont souvent peut-être brisées, face aux décisions importantes que nous avons à prendre pour notre vie, que ce soit le choix des carrières, que ce soit le choix d'une conjointe ou d'un conjoint, le mariage, que ce soit un achat important. Frères et sœurs, pouvons-nous prier avec la conviction que Dieu est capable d'intervenir dans notre vie? Pouvons-nous prier avec cette conviction-là? Lorsqu'une opportunité semble hors de portée, ça peut être un emploi, ça peut être une formation, une mission, pouvons-nous, en dehors de tout ce que nous pouvons faire humainement parlant, prier avec assurance et croire que Dieu est capable d'ouvrir même les portes qui sont impossibles? Pouvons-nous croire cela? L'apôtre Paul nous enseigne par sa façon de prier qu'il nous invite à rester calme dans les tempêtes lorsque nous sommes confrontés aux épreuves, comme le chômage, les conflits conjugaux, comme la perte, ça peut être la perte d'un être cher ou la perte d'un bien. Mais savoir que Dieu est aux commandes de notre vie nous aide vraiment à garder notre paix intérieure. Rester fidèle dans l'épreuve, c'est aussi l'autre leçon que nous apprenons ici. Même quand les réponses de Dieu tardent à venir, rester fidèle dans l'épreuve. Par la prière, nous pouvons utiliser nos défis comme des opportunités pour non seulement glorifier Dieu, mais aussi pour encourager ceux qui sont en train de passer les mêmes situations que nous, ceux qui sont en train de passer par les moments difficiles. Et Paul nous enseigne ou nous appelle ici aussi à une vie, à une vie dans la dépendance totale, dans la dépendance totale à Dieu. Reconnaître que nous avons besoin de la puissance infinie de Dieu dans tous les aspects, dans tous les aspects de notre vie. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va dire dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Les prières de l'apôtre Paul étaient fondées sur la confiance en Dieu et l'assurance en son infinie puissance. Mais les prières de Paul étaient aussi des prières constantes. Des prières constantes. Paul priait avec persévérance. On le voit dans la plupart de ses épîtres, n'est-ce pas? Aux Éphésiens, Paul dira « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance à Dieu. » Ce n'est pas une prière qu'il formule, qu'il dit en un instant et puis ça suffit. Non, il ne cesse. Et aux Colossiens, Paul dira, et pour cela, « Depuis le jour que voilà, nous avons entendu, nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Et aux Thessaloniciens, Paul dit « Nuit et jour, je prie, nuit et jour. » Les prières de l'apôtre Paul étaient des prières ferventes. Il va d'ailleurs inviter le peuple de Dieu, n'est-ce pas, à emboîter son pas, à l'imiter. Vous vous souvenez de ce texte-là, 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit quoi? Priez sans cesse. Priez sans cesse. L'apôtre Paul savait que la prière n'était pas un acte secondaire, mais il savait que la prière était une nécessité vitale pour tout chrétien. Et Spurgeon, que vous connaissez sûrement ou que vous avez entendu parler, cet homme, ce pasteur, ce théologien passait des heures en prière et écoutez ce que cet homme va dire. La prière est la respiration de l'âme. La prière est la respiration de l'âme. Il est impossible d'être spirituellement vivant sans la prière. Impossible d'être spirituellement vivant sans la prière. Et l'apôtre Paul le savait. Voilà pourquoi il transformait chaque instant et chaque situation de sa vie en un moment de prière. En un moment de prière, en une opportunité de prière. Paul a prié dans des contextes variés, n'est-ce pas? Il a prié en prison. Paul a prié lors de ses voyages missionnaires. On peut imaginer l'apôtre Paul en train de prier pendant qu'il est en train de tisser ses tentes. On peut l'imaginer en train de prier pendant qu'il est en train d'écrire ses lettres à ses différentes églises ou à ses collaborateurs. Non, pour l'apôtre Paul, la prière n'est pas une activité secondaire, mais la prière doit faire partie de chaque aspect de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et Watchman Nee va conclure que la prière est le souffle spirituel du chrétien. Il m'arrive des moments d'être à bout de souffle. Or, la prière, c'est le souffle du chrétien. La prière est le souffle du chrétien. Vous allez peut-être me demander ce matin, ben Samuel, que faire pour développer donc une vie de prière? Ben, trois choses je vous propose. L'horaire, la discipline et l'engagement. Non, une vie de prière régulière ne saurait se construire par accident. Il faut que ce soit intentionnel. Pour avoir une vie de prière constante, il faut que ce soit intentionnel. Bien-aimés frères et sœurs, il nous faut établir des horaires de prière réguliers, les respecter et nous imposer nous-mêmes une certaine discipline pour le faire. Sinon, ça ne viendra pas naturellement. Naturellement. L'apôtre Paul était aussi un fervent intercesseur. Ses prières étaient des prières ferventes. Il priait avec un ardent désir. On le voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, hein, où il dit ben, « Nuit et jour, nous prions avec une extrême ardeur. » Fervente, de ferventes prières. Ce qui implique que ces prières n'étaient pas seulement des prières telles que « Seigneur bénis telle église, Seigneur bénis tel frère. » Seigneur, je prie pour ma sœur qui... Et non, ce n'était pas de telles prières que l'apôtre Paul formulait. Oui, ces prières, dans ses prières, Paul nommait ses églises. Il nommait ses collaborateurs. L'apôtre Paul priait selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. Et pourquoi il priait selon les besoins de chacun? Parce qu'il connaissait chacun. Et il connaissait les besoins de chacun. L'apôtre Paul les connaissait, il avait un profond amour pour eux. Il portait même leur fardeau. Connaissons-nous ceux pour qui nous prions vraiment? Nos prières sont-elles des prières ferventes, des prières intentionnelles, connaissant le besoin réel de la personne pour laquelle nous voulons prier? Les prières de Paul étaient des prières ferventes. Les prières de l'apôtre Paul étaient aussi des prières combatives. Lui-même, il va utiliser le mot agonie, agona, agona qui signifie lutte, combat. Paul voyait la prière comme une lutte spirituelle. Paul voyait la prière comme un combat spirituel, un combat pour la vérité, pour la foi. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, écoutez bien ce que Paul dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Voilà décrit notre ennemi. Est-ce que nous avons souvent conscience, en tant qu'enfants de Dieu, que nous sommes sur un champ de bataille? Avons-nous souvent conscience? D'ailleurs, dans ce monde dans lequel nous sommes ici en Europe, où tout semble aller très bien, est-ce que nous avons conscience, en tant qu'enfants de Dieu, que nous sommes sur un champ de bataille et que notre adversaire, lui, il ne blague pas? Il n'attend qu'une seule chose, nous abattre et empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse par nous. Avons-nous conscience de cela? La prière de l'apôtre Paul, les prières de Paul étaient des prières combatives. Il menait un combat véritable contre notre ennemi commun. Qu'en est-il de nos prières, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui? Nos prières sont-elles intentionnelles? Sont-elles intensives? Nos prières sont-elles agonisantes? Combien de temps je passe dans ma prière par jour? Nos prières sont-elles de réels combats spirituels? Est-ce qu'elles sont animées par un profond amour des personnes pour lesquelles nous prions? Les prières de l'apôtre Paul étaient aussi indépendantes de toutes circonstances extérieures. La vie de Paul était marquée par des épreuves. Oui, la vie de l'apôtre Paul était marquée par des épreuves. Ces épreuves avaient pour nom la persécution, l'emprisonnement, les maladies, les soucis conjugaux, des crises dans les églises. Alors, en tant que pasteur, je sais de quoi il est question. Des fois, des crises, on passe plus d'heures à écouter des gens, à essayer de régler des conflits entre des personnes, des fois que... Voilà. Et Paul, en tant que berger, en tant que pasteur, il faisait face à toutes ces choses-là. Ces moments difficiles, loin de le décourager, étaient plutôt des occasions pour lui de rechercher plutôt la faveur de Dieu, la face de Dieu. C'était des occasions de le plonger davantage dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul, devant son infirmité, sa maladie, il dira trois fois, « J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Alors, quand on parle, quand on entend trois fois, on va dire, mais c'est pas grand quand même, trois fois, un, deux, trois, c'est suffisant. Mais pour qui connaît l'apôtre Paul? Quand l'apôtre Paul passait son mouchoir, le seul mouchoir de l'apôtre Paul pouvait guérir des gens, ça pouvait ressusciter des morts. Qu'un tel homme prie une fois, il prie deux fois, il prie trois fois, et que Dieu ne lui réponde pas, on peut bien comprendre que c'était une prière fervente. Et une prière vraiment forte hein, qu'il avait à faire. Mais même quand Dieu ne l'a pas répondu, même quand Dieu ne l'a pas guéri de sa maladie, l'apôtre Paul n'a pas baissé les bras. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Paul a reçu la grâce de Dieu de persévérer. Et cela nous laisse aussi énormément de leçons ce matin, n'est-ce pas? Par cette façon de prier de l'apôtre Paul, ben, il nous apprend à prier dans toutes les situations, les saisons de notre vie. L'apôtre Paul priait aussi bien dans l'abondance que dans le manque. L'apôtre Paul priait aussi bien dans la liberté que dans l'emprisonnement. Il a prié et chanté au milieu de la nuit dans la prison de Philippe, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cette histoire-là, Actes chapitre 16. N'y a-t-il pas là un exemple pour nous, bien-aimés frères et sœurs, à imiter quand notre travail quotidien nous paraît comme une prison? N'y a-t-il pas là un exemple à imiter quand notre vie de couple nous paraît comme une prison? N'y a-t-il pas là un exemple à imiter quand la collaboration avec nos responsables, nos collègues du travail nous paraît comme une véritable prison? Paul savait prier dans toutes les saisons de sa vie. Paul nous encourage, nous apprend aussi à prier avec gratitude malgré les difficultés qui peuvent se dresser sur notre chemin. Frères et sœurs, remerciez Dieu non seulement pour les bénédictions visibles que le Seigneur vous accorde, mais remerciez-le aussi pour les bénédictions invisibles des choses que vous ne voyez pas. Remerciez Dieu pour sa présence et pour ses promesses qui s'accomplissent toujours, toujours dans sa vie, au milieu des épreuves. Et si nous prenions le temps de remercier Dieu pour ce que ces épreuves-là peuvent nous enseigner, ce que Dieu, lui, peut nous enseigner au travers de ces épreuves-là. L'apôtre Paul nous apprend à ne pas laisser les circonstances dicter notre foi. Il n'a jamais laissé ses souffrances physiques ou émotionnelles affecter sa confiance en Dieu. Il a été malade, il est vrai. Il a prié par deux fois et Dieu lui dit « Ma grâce te suffit ». Et cela ne l'a pas découragé. L'apôtre Paul a continué vraiment à servir le Seigneur et à prier. C'était un homme qui ne marchait pas par la vue, mais qui marchait par la foi. Et si nous apprenions aujourd'hui à marcher non par la vue, mais par la foi? Paul nous apprend à rester focalisés sur Dieu et non sur les circonstances qui peuvent être visibles à nos yeux aujourd'hui. Ma prière pour vous ce matin, ce n'est jamais lever les yeux vers les montagnes, mais à plutôt lever les yeux vers celui qui a créé les montagnes. Et celui qui a créé les montagnes, c'est Dieu. Au-delà de ces montagnes qui se présentent devant nous, il y a un Dieu créateur. Et ce Dieu a une puissance extraordinaire. Une puissance qui surpasse toute autre puissance. Il a tout sous son contrôle. Et quand Dieu tonne, tout s'arrête. Amen. Les prières de l'apôtre Paul étaient enfin enracinées dans la volonté de Dieu. Les prières de Paul étaient enracinées dans la volonté de Dieu. Paul priait avec ferveur, il est vrai. Mais il soumettait toujours ses désirs à la volonté de Dieu. Paul ne priait pas pour accomplir ses désirs personnels, mais pour que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie et dans toutes les situations de croyants. Mais cela nous montre l'importance de la prière avec ferveur, bien sûr. Mais cela nous montre aussi l'importance d'une ferveur équilibrée par l'humilité et la confiance en la sagesse de Dieu. Et il arrive des moments où on n'arrive pas à faire l'équilibre entre la ferveur et la confiance en Dieu. Il arrive des moments où on pense que, en fait, c'est nous qui décidons. Et donc, c'est notre volonté qui doit s'accomplir. J'ai vu des gens imposer des choses à Dieu. Sinon, commander Dieu d'agir. Fais-le! Je t'ordonne! Nous n'avons rien à ordonner à Dieu. C'est lui qui accomplit toutes choses. L'équilibre entre non seulement la ferveur, le combat, mais aussi le fait de s'attendre simplement à Dieu. Parce que les combats que nous menons ne sont pas nos combats à nous. La Bible nous dit que notre ennemi est déjà vaincu. Christ l'a livré en spectacle. Il l'a vaincu pour nous. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Voilà ce qui caractérisait les prières de l'apôtre Paul. J'aimerais bien que nous nous interrogions, et ce sera quasiment la fin de mon intervention ce matin, que nous nous penchions sur le contenu des prières de l'apôtre Paul. Quel était le contenu des prières de l'apôtre Paul? Pourquoi Paul priait-il? Pour qui l'apôtre Paul priait-il? On commence par pourquoi. On remarque que les prières de Paul étaient fondamentalement centrées sur des objectifs spirituels. Fondamentalement. C'était un homme dont ses prières étaient beaucoup plus focus sur ce qui est spirituel. L'apôtre Paul priait pour la croissance et la maturité des croyants. Il priait que des chrétiens croissent dans leur foi, dans leur amour, dans leur connaissance de Dieu. Nous l'avons vu quand il prie pour les chrétiens d'Éphèse. Il demande qu'il prie pour que ces personnes-là connaissent véritablement qui est Dieu. L'apôtre Paul désirait voir des chrétiens atteindre une certaine intimité profonde avec Dieu. Mais il priait aussi pour que les chrétiens vivent une vie conforme à la volonté de Dieu. Lorsque nous prions, il serait peut-être important de penser prier pour la croissance et la maturité spirituelle de nos frères et sœurs dans la foi. Quand Paul priait, il priait aussi pour que la puissance de Dieu soit à l'œuvre dans la vie de chaque croyant. Paul savait que les chrétiens avaient besoin, oui, ils avaient besoin de la puissance de Dieu pour rester fermes dans leur foi, pour accomplir leur appel, pour accomplir leur vocation. Ils désiraient voir les chrétiens être fortifiés par la puissance de Dieu, afin de pouvoir persévérer dans leur foi. Parce qu'être chrétien n'est pas facile, nous l'avons déjà dit. Être chrétien n'est pas facile. Il y a énormément de défis à affronter. Et Paul priait pour que les chrétiens restent fermes. Il voulait les voir s'approprier surtout cette puissance de Dieu. Et des fois, nous savons que Dieu est puissant, mais nous ignorons dans bien des cas qu'il soit puissant pour nous. Il est puissant pour les autres. Mais est-ce qu'il est pour moi aujourd'hui? Paul voulait voir les chrétiens s'approprier de la puissance de Dieu et marcher avec cette puissance de Dieu. Marcher avec cette puissance de Dieu. L'apôtre Paul priait pour l'unité et l'amour dans l'Église, n'est-ce pas? Parce qu'il savait que l'unité et l'amour sont essentiels pour que la gloire de Dieu soit manifeste aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas. Il savait que l'amour et l'unité sont essentiels pour que l'Évangile, le témoignage de l'Évangile soit su de tous. Voilà pourquoi il priait pour cela. Il priait pour la persévérance et la protection. Il voulait voir les chrétiens tenir ferme, même dans des situations difficiles. Mais s'il y a un sujet pour lequel il priait beaucoup, c'était celui du progrès de l'Évangile. L'apôtre Paul voulait voir l'Évangile progresser. Sa préoccupation majeure, c'était de voir l'avancement du règne de Dieu. C'est pour cela qu'il priait. Il priait pour que l'Évangile soit proclamé avec puissance et efficacité. Il priait pour que Dieu ouvre toutes les portes, afin que ceux qui ne le connaissent pas encore puissent vraiment le connaître. Quel est souvent le contenu de nos prières? Lorsque nous nous plaçons devant le Seigneur, pourquoi est-ce que nous prions? Alors après, Paul priait aussi pour ses besoins personnels et spécifiques. Hein? Mais le plus important pour lui, c'était plutôt des besoins spirituels, des objectifs spirituels. Pour qui l'apôtre Paul priait? Mais il priait pour les églises qu'il avait fondées. Paul priait pour tous les croyants. Tous les croyants. On le voit dans Colossiens chapitre 1, verset 9. Paul priait pour ses collaborateurs qu'il nommait. Timothée, Tite, Philémon, et bien d'autres amis qu'il avait. Il priait pour eux, il les connaissait. Il priait aussi pour les non-croyants, demandant à Dieu de leur ouvrir les cœurs à l'Évangile. Paul continuait à prier pour que ces personnes-là puissent vraiment changer de vie et venir sous l'autorité de Jésus-Christ. Il prie enfin pour les autorités, n'est-ce pas? Il invite d'ailleurs les chrétiens à prier pour les autorités. Je vais terminer ce matin en disant, qui sommes-nous devenus dans notre marche avec le Seigneur? Sommes-nous devenus des hommes et des femmes de prière? Qu'est-ce qui caractérise nos prières aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu? Pour l'apôtre Paul, la prière est un exemple puissant. La vie de prière de l'apôtre Paul est un exemple puissant pour nous, chrétiens, aujourd'hui. La prière était pour lui pas un simple recueillement circonstanciel, mais la prière était pour l'apôtre Paul un souffle de vie. La prière était aussi naturelle que la respiration. Et aucune occupation ne pouvait empêcher l'apôtre Paul de parler à son Père céleste. Aucune. La deuxième chose à retenir ce matin, c'est que pour l'apôtre Paul, il avait une vie de prière centrée sur Dieu. Une vie de prière empreinte de foi, d'amour et de préoccupation. De préoccupation pour les autres. Paul priait non seulement pour ses propres besoins, mais aussi pour ceux de ses collaborateurs. Il priait aussi et surtout pour la croissance spirituelle de ses croyants, pour l'unité de l'Église et pour l'avancement du règne de Dieu. Mais si l'apôtre Paul a été un grand homme de prière, il a pu accomplir de grandes choses. Le secret, c'est dans sa dépendance à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il savait que sans l'Esprit de Dieu, il ne pouvait absolument rien faire. Bien-aimés frères et sœurs, avec l'Esprit de Dieu, nous sommes bien plus que vainqueurs. Et nous pouvons persévérer. Ma prière pour vous et moi ce matin, c'est que nous puissions effectivement devenir, en plus d'être des hommes et des femmes d'action, mais des hommes et des femmes de prière, pour la gloire de Dieu. Amen.